Activity.
Radio Activity!
Avec les contributions d'Alizé Berthet, Anouk Jeannin-Gros, Léonie Monjaret, Charlène Guillan, Annabelle Maclembourg et Élie Cumin, Daphné Targotaille, Ilana Maublanc, Jeanne Dupuis, Maëva Himmler et Mona Belgued. Sur une proposition d'Isabelle Massu, Daniel Ebalit et Thomas Bizarri.
Radio Activity est une émission d'audio-recherche des étudiantes de 4e année de l'Institut supérieur des Beaux-Arts de Besançon en option art et communication visuelle, réalisée en autonomie et à l'issue d'un semestre de pédagogie dématérialisée. Les propositions sonores, homemade, des étudiants sont en rapport avec les mémoires en cours d'écriture. Nous espérons que ce médium permettra d'ouvrir de nouvelles approches de traitement du langage ou d'appropriation des références artistiques et théoriques dans ce nouveau contexte sonore. Cette émission est ainsi un outil de travail alors que ces recherches sont toujours en cours et en train de prendre forme, mais surtout un moment lors duquel les travaux de chacun et chacune entrent en résonance au sein d'un projet désormais unique et collectif.
Le graphiste mimétique vit dans les bibliothèques et s'enfonce entre ses étagères tout en reproduisant les motifs marbrés des couvertures de ses livres. Mais sa véritable force réside dans une autre forme de mascarade. Non content de changer de style, ses productions prennent l'apparence d'autres ouvrages. Lorsqu'il se déplace ou cherche de quoi lire, il avance avec les bras croisés derrière son dos afin de passer pour un moine copiste. Une stratégie de défense efficace, les prédateurs y réfléchissent à deux fois avant de l'attaquer. Ce n'est ni la première, ni la seule créature bibliophile à se travestir. Ce qui le rend unique en son genre, c'est qu'il est capable d'imiter de nombreuses autres espèces. Les scientifiques ne savent pas exactement combien, mais une chose est sûre, tous les objets de son répertoire sont dotés d'un atout spécial. Ce fac-similé, par exemple, se fait passer pour une revue ancienne hautement prisée. Couché sur le bois de l'étagère, il se sépare de ses semblables, tel un ouvrage ancien. Le message est clair. Ouvre-moi. Celui-ci dissimule ses nombreuses pages photocopiées sous la moquette pourpre de la pièce et étire son corps pour ressembler à une édition de poésie. Si nous, humains, sommes bien capables de faire la différence, pour un lecteur, l'illusion est proche de la perfection. Ce tour de passe-passe est salutaire pour un animal sans défense tel que le graphiste mimétique. On ignore de quelle façon il s'y prend pour imiter les documents les plus intéressants, mais le simple fait qu'ils parviennent à identifier leurs atouts et à leur donner des formes multiples pour les diffuser est une preuve de son incroyable intelligence. Face à la menace constante des prédateurs, le graphiste mimétique a su mettre à profit sa souplesse d'esprit et sa peau de caméléon.
This intense sort of scowl, the concentration on your face, like you're doing all this for a school project or something. Or like you've got something driving you. Look at it. It's gone. If I didn't know better, I'd say you looked almost happy.
something driving you.
Sur un podcast radio, sur l'émission étudiante. Donc aujourd'hui, on a une nouvelle étudiante, une nouvelle invitée, qui est Léonie Monjaret. Donc Léonie est étudiante à l'École des Beaux-Arts de Besançon, en master de communication visuelle et donc de design graphique. Avant que l'émission commence, elle nous a demandé donc de passer un petit extrait d'une lecture donc de Vision Things, de Social Design Notes, en introduction. Et ensuite, on commencera donc avec quelques définitions qu'elle nous a pareillement demandé de mettre en début d'interview, et ensuite on l'écoutera.
The Vision Things, Social Design Notes, Taking It Public, Rendre Public. Le design offre une manière différente de lire l'environnement visuel, de naviguer dans la culture et de comprendre les systèmes qui façonnent notre monde. Les designers savent tout sur la fabrication du désir et de l'insatisfaction, la vente d'images et d'idées. Mais l'éducation au design met ses outils entre les mains des étudiants et crée des ouvertures pour une plus grande expression de soi. Ce n'est pas seulement l'expression de l'émotion et du style, mais l'expression de soi dans un sens plus fourni et plus riche, en tant qu'expression de valeur et de son propre pouvoir.
Donc avant de commencer, Léonie donc nous a demandé effectivement de définir plus globalement et plus précisément ce qu'est donc les notions qu'elle développe dans son mémoire et dans ses recherches. Donc Léonie est une étudiante en graphisme. Le graphisme est une discipline donc qui consiste à créer, choisir et utiliser des éléments graphiques, donc dessins, caractères typographiques, photos, couleurs, pour élaborer un projet, un objet de communication et ou de culture, dans le but de promouvoir, d'informer ou d'instruire. Donc le designer graphique est un médiateur qui agit sur les conditions de réception et d'appropriation des informations et des savoirs qu'il met en forme. À la suite de cette définition, Léonie nous a donné aussi la définition de design social, parce que c'est ce qu'elle développe. Le design social, c'est un design conscient du rôle et de la responsabilité du designer dans la société. Ainsi, donc, le design utilise un processus de conception pour provoquer un changement social. Le design social est également une discipline critique qui met en question le marché des pratiques du design conventionnel et tente de voir au-delà de cela dans une conception plus inclusive du design, dans laquelle des groupes d'utilisateurs habituellement marginalisés ont la priorité. Donc Léonie, bonjour. Donc tu fais voilà le lien entre le graphisme et le design social. Donc on est très content de te recevoir aujourd'hui. On va aborder cette question de responsabilité du designer, du graphiste, qui, d'après ce que j'ai compris pour toi, était très très importante. Est-ce que tu peux rapidement quand même nous parler un peu de l'extrait qu'on a écouté juste avant, et donc ensuite tu pourras enchaîner sur cette notion de responsabilité. Comment tu définirais cette notion de responsabilité au sein du domaine, du design, du graphisme plus particulièrement?
Bonjour également et merci de me recevoir. Alors oui, je peux tout à fait commenter ce qu'on vient d'entendre. Après, ça rentre vraiment en écho avec ce que je vais dire ensuite. Mais j'ai décidé en fait donc d'aborder et de placer cet extrait de The Vision Things sur le rendre public, parce que la notion de public, on va dire la relation au public en tant qu'audience, mais au public en tant que... espace public, etc. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Et dans ce que je trouvais intéressant dans ce morceau, c'est qu'on parle vraiment, ici c'est vraiment aborder la question des étudiants, l'éducation du design et donc de tous les outils en fait qui sont mis entre les mains des étudiants. Ce qui m'intéressait vraiment dans cet extrait, c'est cette notion des valeurs et du pouvoir du graphisme, qui est un pouvoir très riche. Donc effectivement, comme vous le soulignez bien, j'apporte donc beaucoup d'importance à la responsabilité de mon futur travail et du domaine dans lequel je suis. La notion de médiation aussi m'intéresse beaucoup. Je pense qu'elles sont toutes les deux liées et qu'elles peuvent vraiment servir la définition du graphisme comme je l'entends. Mais je vais me focaliser sur cette notion de responsabilité. Au fond, je me suis rendu compte que pour moi, la question reste toujours la même. C'est à quoi je sers ? Et j'aime bien poser cette question en tant qu'étudiante et en tant que graphiste, à quoi je sers, à quoi sert mon domaine, à quoi sert mon travail, à quoi sert mes capacités. Par exemple, si je prends la définition de responsabilité, la responsabilité c'est donc une obligation ou une nécessité morale de répondre et de se porter garant de ses actions ou de celles des autres. Une fonction, une position qui donne des pouvoirs de décision mais qui implique que l'on en rende compte. Donc moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est cette notion vraiment d'implication, donc de moi en tant que designer, de moi en tant que faiseur d'images, mais aussi et surtout donc les répercussions que ça va avoir sur les autres, donc sur le public, donc sur l'audience, sur la société en somme. Donc c'est vraiment on va dire ce duo un peu graphiste et les autres. Et parce que pour moi, le graphisme est intéressant dans le sens où il est fondamentalement présent dans la société. C'est un médium de communication hors normes qui a différentes formes, différents langages, qui peut vraiment toucher du monde, qui peut avoir des répercussions massives. Dans mes recherches de mémoire, j'envisage la pratique du graphisme peut suppléer les enjeux sociaux et sociétaux. Donc c'est vrai que j'envisage réellement cette notion de responsabilité du graphisme comme le graphisme comme un principe d'utilité publique et générale. Je suis fondamentalement intéressée, comme je disais, par le rapport entre le graphiste et les autres, et par cette responsabilité que va avoir le graphiste face aux autres, comment son travail va pouvoir l'utiliser pour être responsable, en fait, lui, dans sa position en tant que designer, dans son travail. Vraiment, voilà, donc cette notion de responsabilité, je la conçois comme ça, parce que le graphiste est un communicant, c'est quelqu'un qui parle aux autres, qui communique aux autres. Et moi, j'aime bien définir ma conception du travail comme ça.
Alors justement, concernant ce rôle du graphiste par son travail donc sur le public, tu cites Tibor Kalman dans tes recherches. Donc on va écouter aujourd'hui maintenant l'extrait que tu as sélectionné et tu pourras le commenter ensuite. Donc c'est une interview de Tibor Kalman par Charlie Rose en 1998, donc à propos de son livre qui venait de sortir à l'époque, qui s'appelait The Perverse Optimist. Donc on écoute cette interview.
What attracts you to design then? You know, if you know it's manipulation, if you know it's about spin, if you know it's about sell, what is it that makes you want to be a proud designer?
Right now?
Yeah.
Because I can turn it all around the other direction. I can design and manipulate and spin people politically in the direction that I want. Yeah. That's what I like about design. I mean, I know how to make advertising. I know how to make labels. So therefore, I can take those skills that I have of manipulating people over a label for a spaghetti sauce, and I can take those skills and apply them to the idea.
You can take the label, like spaghetti,
right,
and do what?
Well, I can get people to buy it, first right. of all. And if I can get them to buy it, then I can get them to buy something else, like healthcare or donations to poor nations. Mm. I can use those skills towards any end I want. If I have some support from a foundation or something, I can use those skills to get kids not to buy Gatorade, but to drink water. Not to buy expensive sneakers, but to buy any old sneakers and just practice harder. You know, because I can uncommercialize any commercial skill I have. Decommercialize, anti-commercialize, whatever.
Oui, voilà, j'aime bien cet extrait. Alors pourquoi j'ai choisi de vous faire écouter ça? Donc ce que dit Tibor Kalman en fait dans cet extrait rentre en écho avec mes recherches du moment. Selon moi, dans cet extrait, Tibor Kalman il décrit vraiment cette responsabilité que je disais tout à l'heure, cette influence, ce rôle pivot que peut avoir le graphiste qui moi me questionne en tant qu'étudiante en graphisme, mais qui aussi questionne l'importance de notre pratique, enfin de ma pratique au sein de la société contemporaine. On parle du graphiste communicant qui, à défaut d'utiliser ses compétences dans un sens commercial, etc. Là, Tibor Kalman montre que explique que le graphiste peut le faire dans un tout autre sens, donc ici plutôt un sens politique et social, et moi c'est un sens qui m'intéresse, et donc qui peut vraiment avoir un impact sur les populations. Il parle aussi par exemple de anti-commercialize, donc d'anti-commercialisation, on va dire, et je trouve ça extrêmement intéressant parce qu'il y a vraiment une idée d'infiltrer les systèmes graphiques, d'utiliser des systèmes qui sont déjà existants, donc par exemple les systèmes de pub, etc., et d'en modifier le discours, d'en modifier la portée. Et je pense que justement utiliser des systèmes un peu massifs comme ça pour faire passer des idées socialement, politiquement, inhérentes à la société ou importantes, pour moi c'est un peu ça aussi l'utilité publique du graphisme, c'est à ça que ça sert.
On reviendra sur cette notion d'utilité publique juste après. Comment tu considères en fait, toi, le rôle du graphiste ? Tu considères vraiment le rôle du graphiste comme un rôle de responsabilité face à des questions sociales ?
Alors oui, véritablement. En tout cas, le rôle que moi, Léonie, en tant que future graphiste, j'aspire à avoir, c'est un rôle d'agent graphique qui utilise son travail, ses compétences, son domaine en faveur de questions sociales. Comme le dit Tibor Kalman, je considère que le graphiste, grâce à sa pratique et à ses connaissances, peut influencer le public. Et il faut que cette influence soit... influencer le public dans le sens où une influence saine et bienveillante. Dans un sens social, je trouve ça tout à fait pertinent. Je me sens responsable à travers de mon travail. En tout cas, j'aimerais vraiment aspirer à avoir une position d'un graphiste responsable, quoi.
Donc tu as parlé justement d'utilité publique. Est-ce que donc tu es d'accord avec la définition d'un graphisme, du graphisme comme étant un service d'utilité publique? Cette définition, donc, elle résonne avec les événements actuels, donc de manifestations qu'il y a aujourd'hui et ces dernières années. Penses-tu que le graphisme est en train de prendre un virage politique et social, et comment se caractérise-t-il selon toi?
La dernière chose la plus pertinente que j'ai vue, que j'ai trouvée vraiment intéressante et que je me suis dit, alors ça c'est vraiment un exemple que je trouve vraiment juste, à la suite de la mort de George Floyd. Voilà, il y a eu une sorte de mobilisation dans le monde et sur les réseaux sociaux aussi. Et en fait, je suis donc sur Instagram, je suis tombée en fait sur le projet donc d'une designeuse qui s'appelle Mana Saline. Et en fait, elle écrit à la suite de ce projet, donc elle écrit « Je ne suis pas activiste, je ne connais pas grand-chose à la politique, mais je suis designer. Et lorsque l'on design, et en tant que designer, nous devons penser à qui est notre public et notre cible. Pourquoi designons-nous et pour qui ? Et cela m'a fait penser à la façon dont nous utilisons les médias sociaux, nous ciblons nos publications vers des personnes noires. Et nous partageons des traumatismes et du stress avec ces personnes noires en déclamant et criant ce qui ne va pas à ces personnes noires. Mais la question Donc elle pose, elle dit la question est de savoir comment continuer à partager, mais à le faire de manière efficace. Nous devons penser à notre public cible, donc à l'oppresseur, et à l'endroit où se trouve virtuellement, où il se trouve virtuellement. Donc nous devons utiliser leur hashtag pour les rencontrer virtuellement. Donc ce que j'ai trouvé donc très intéressant, donc ça c'est ce qu'elle écrit en fait comme définition, on va dire, de son post Instagram. Et en fait ensuite, donc quand on tourne, quand on swipe les pages, en fait elle a fait donc une liste d'une, je sais pas, d'une trentaine d'hashtags où en fait elle utilise. Donc c'est des hashtags qui sont utilisés majoritairement par la communauté blanche américaine et donc par la communauté extrême blanche, on va dire, qui est communauté extrémiste. Et en fait donc elle propose d'utiliser ces hashtags donc dans nos posts de Black Lives Matter, et donc en utilisant ces hashtags ça va venir inonder le réseau, le fil d'actualité des personnes racistes et des personnes extrémistes de postes qui sont antiracistes, de postes qui sont de postes de Black Lives Matter. Et je trouvais que c'était une initiative qui était extrêmement intéressante parce que pour moi ça a vraiment, enfin ça représente vraiment l'idée que je me fais du designer, c'est-à-dire que le designer, cette idée de protestation virtuelle et de concept de design qui réfléchit à la cible, qui offre des solutions, donc pas forcément la solution ou une seule réponse, mais qui offre des moyens de communication, des moyens de protestation pour mieux utiliser les médias sociaux. Et je trouvais ça très pertinent et ça colle vraiment avec l'image que j'ai du designer et du graphiste qui a parfois un rôle vraiment de guide, de médiateur. Et c'est vraiment la chose la plus pertinente que j'ai trouvée, je me suis dit, c'est voilà, il y a vraiment une notion, encore une fois, d'infiltration, où la graphiste nous propose ici d'utiliser des hashtags pour mieux contrer les algorithmes d'Instagram, parce qu'on sait très bien que les algorithmes des réseaux sociaux nous montrent que ce qu'on a envie de voir, et elle expose vraiment quelque chose que je trouve fondamental, c'est ça ne sert à rien de convaincre des personnes qui sont déjà convaincues. Et moi je pense que le problème aujourd'hui du design, en général, c'est ça en fait, c'est qu'on s'adresse à des gens qui sont déjà convaincus. Le designer, c'est le monde du design, c'est un monde qui est extrêmement petit, et c'est un monde où on s'adresse déjà à des designers. Et moi, ce qui m'intéresse en fait dans le design et dans le graphisme, c'est de m'adresser à d'autres gens, en fait, à d'autres personnes. Et je trouvais que cette idée, que ce projet était vraiment, vraiment intéressant et qui rentrait vraiment en écho avec ce que moi je développe, donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous le citer aujourd'hui et de vous l'exposer. On va revenir sur cette notion d'utilité publique. Après, ça dépend comment on la définit. Selon moi, l'utilité publique est générale, donc comme je l'ai définie dans mon travail, ne change pas totalement de son essence primaire. Un design d'utilité publique reste un design qui conçoit donc, des services et des politiques destinés au public. Donc c'est un service, pour moi, service public destiné à tous, s'inscrivant dans l'espace public, mais aussi pouvant agir quotidiennement dans le privé. L'utilité publique ne touche pas essentiellement la commande publique et institutionnelle. Pour moi, cette notion dans le graphisme et dans le design, c'est une notion un peu... C'est un service global, fondamentalement public, dans le sens de sa cible, mais aussi dans le sens de sa diffusion. Pour moi, une production d'utilité publique en 2020, ça va de l'application pour trouver un espace, je sais pas moi, de déjection canine à un magazine... par exemple le magazine Nice qui renseigne sur les artistes émergents de la scène africaine. Donc pour moi le design graphique d'utilité publique n'a pas forcément une représentation mais plusieurs, mais ça reste quand même une production, un service utile au public en général, mais qui est fondamentalement relié au public, c'est sûr.
Donc pour finir, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de cette dernière définition du graphisme que tu as développée dans tes recherches, à savoir le graphisme en tant qu'art du lien social et du dialogue ?
Oui, volontiers, donc on peut en plus finir là-dessus, c'est plutôt bien. Alors en fait, cette notion de art du lien social et du dialogue, c'est issu d'un texte donc, de Thierry Chancogne qui s'appelle donc, Le Moment politique, où il dit en fait complètement... Le graphisme, en qualité d'art du lien social et du dialogue, à la croisée des disciplines, constitue par excellence un marqueur de l'évolution sociétale. Donc je le rejoins en fait sur cette notion d'art du lien social et du dialogue à la croisée des disciplines. Et je trouvais ça vraiment important de reprendre cette formulation, parce que c'est vraiment la définition que j'ai du graphisme, du graphiste comme quelqu'un qui instaure un lien social en fait. Et que ça passe voilà, par... par de l'édition, par de l'image, par du poster, par de la vidéo, je ne sais pas. Mais vraiment, je trouve que c'est important d'avoir ce lien social et ça met vraiment en valeur cette notion de, comment dire, encore une fois, de public, de relation avec le public, d'importance du public, en fait, dans le travail du graphiste. Et c'est pour ça que j'ai décidé de reprendre cette formulation. Après, effectivement, art du lien social, du dialogue aussi, dans le sens où, comme je disais au début, le graphisme doit aujourd'hui peut-être avoir un rôle peut-être plus éducationnel, plus pédagogique au sein même du graphisme, hein, mais au sein aussi même de on va dire, du public extérieur, de l'audience extérieure. Et d'ailleurs, j'aimerais bien la relier en fait à un extrait aussi de la mort de l'auteur par Roland Barthes. Donc il parle du texte et de l'auteur comme un lieu où plusieurs formes d'écriture viennent se s'entrechoquer, mais il dit à la suite, et je trouve ça extrêmement intéressant, il dit: il y a un lieu où cette multiplicité se rassemble, et ce lieu, ce n'est pas l'auteur, c'est le lecteur. Le lecteur est l'espace même où s'inscrivent, sans qu'aucune ne se perde, toutes les citations dont est faite une écriture. L'unité d'un texte n'est pas dans son origine, mais dans sa destination. Et cette dernière phrase, l'unité d'un texte n'est pas dans son origine, mais dans sa destination, je trouve que c'est vraiment relié aussi au graphisme, on va dire au graphisme comme moi je décris, que je l'ai décrit tout au travers de cette interview. Le graphiste va proposer quelque chose, et en fait c'est ce que les gens vont faire de cette proposition qui vraiment importe. Et c'est pour ça que je trouve que le graphisme en tant que service public rentre vraiment en écho avec ces notions du lien social et du dialogue, mais aussi donc le lien que va élaborer le graphiste avec l'extérieur, avec son public, avec la société, qui va déterminer en fait clairement son travail. Et voilà, je trouvais ça plutôt intéressant de terminer là-dessus en tout cas. Merci de m'avoir reçu.
Merci Léonie, merci à toi pour ton intervention, et du coup je vous laisse avec une petite page de musique. We'll be right back.
Radioactivity.
Radioactivity.
Je vais commencer par vous lire un poème de João Cabral de Melo Neto, écrit en 1965. L'éducation par la pierre. Une éducation par la pierre, par le son, pour apprendre de la pierre à la fréquenter, à capter sa voix inemphatique, impersonnelle. Par la diction, elle commence les cours. La leçon de morale, sa résistance froide à ce qui coule et a coulé, à être modelé. Celle de la poétique, sa carnation concrète. Celle de l'économie, sa densité compacte. Le son de la pierre du dehors vers le dedans, abécédaire muet, pour qui l'épellera. Autre éducation par la pierre, dans le certao, du dedans vers le dehors, est prédidactique. Dans le certao, la pierre ne s'est pas donnée de cours, et si elle en donnait, elle n'enseignerait rien. Là, on n'apprend pas la pierre. Là, la pierre, une pierre de naissance en taille lame. Le Sertao, c'est une région du Brésil. Le sens originel de ce mot, ça signifie l'arrière-pays ou le fin fond. Ce qui m'intéressait dans ce poème se trouve dans le dernier paragraphe. Quand il dit « Là, la pierre, une pierre de naissance en Thaïlande. » Et qui me ramenait à cette idée qui vient de Deleuze et Guattari, et où ils écrivent « Un territoire emprunte à tous les milieux. Il mord sur eux, il les prend à bras le corps, bien qu'il reste fragile aux intrusions. » Pour Vinciane Després, au lieu de parler de territoire, on devrait parler plutôt d'actes territoriaux, et donc de manière de faire territoire. Parce que c'est vrai que notre définition humaine du territoire est très réductrice, puisqu'on l'entend sous forme de frontières, de propriétés, de gouvernance. Et d'exploitation également. Pour les oiseaux, c'est complètement différent, et les animaux en général, qui seraient moins des territoires définis comme appartenant à telle ou telle personne que même des territoires qui seraient plus inscrits sur une temporalité et un usage. Et ce qui m'intéressait dans le livre Habiter en oiseau de Vinciane Després, au-delà de toute cette réflexion sur la manière de comprendre un territoire et de le faire, c'était surtout celle des oiseaux qui font en fait leur territoire par le chant. Et ces actions vont rythmer l'espace, vont le ponctuer, comme une partition qui serait tout le temps en réécriture. Donc Vinciane Després écrit « Le chant peut être un acte de territorialisation, donc marquer une possession, créer des distances, rythmer un territoire, puis se déterritorialiser, devenant cri d'appel à l'arme ou se mettant au service de l'amour. » Donc ça serait penser le chant différemment d'un acte isolé, mais plus comme un chant qui va redéfinir l'espace, qui va s'imposer à lui autant que l'espace pourrait le modifier. Donc, il y a un travail de Laurence Abou Hamdam qui s'intitule « This whole time there were no landmines » et que je trouvais assez intéressant à mettre en lien avec ces espaces territoires-champs. Donc en fait, son travail, c'est une installation vidéo, donc des vidéos qu'il a récupérées, qui ont été prises avec des téléphones portables en 2011 sur le plateau du Golan. Donc le plateau du Golan, c'est un espace qui a été annexé par Israël, et c'est un espace qui était syrien. Donc c'est un espace qui a une acoustique très particulière grâce à sa topographie. Et donc les familles qui ont été séparées à cause de l'annexion et de la frontière qui a été créée entre elles, communiquent de cette façon-là en se créant des choses d'un côté et de l'autre. Et la vidéo, c'est un événement qui s'est déroulé le 15 mai 2011, donc à travers cette vallée, où en fait il n'y a pas eu seulement les voix cette fois-ci, mais aussi des corps, des personnes qui ont voulu traverser cette vallée. Donc c'était des Palestiniens réfugiés du côté syrien, qui pour l'anniversaire de Nakba, qui signifie catastrophe et qui fait référence à l'exode palestinien en 1948 suite à l'annexion de la Palestine par Israël. Ce que je trouve intéressant avec cette vallée, c'est la capacité à déterritorialiser un espace pour se le réapproprier, c'est-à-dire qu'ils ont changé le rapport au territoire, celui qui était attendu d'eux, étant donné qu'il y a une frontière, deux pays en conflit, et la réalité de leur relation entre eux, mais aussi avec le lieu et ce qu'il peut leur proposer. Dans l'épidémie d'encens qui s'est déroulée en 1518 à Strasbourg, les gens se sont mis, petit à petit, une centaine de personnes s'est mise à danser de façon hyper frénétique, sans pouvoir s'arrêter. Et donc, ils se sont rendus compte, hein, ils se sont posé la question de qu'est-ce qui avait pu se passer. Et déjà, à l'époque, ils n'étaient pas simplement, même s'il y a pu avoir ce type d'hypothèse, mais ils n'étaient pas simplement dans « c'est une manifestation du diable, c'est une intervention magique, etc. » une sentence divine. Mais ils avaient déjà émis l'hypothèse qu'il y aurait pu y avoir un empoisonnement. Et donc, en effet, c'était certainement un empoisonnement des récoltes à l'ergot de seigle qui provoque donc des hallucinations. Ce qui était intéressant, là, c'est de voir que les champignons puissent s'infiltrer dans la vie assez régulée des humains et radicalement changer leur... en s'infiltrant dans leur corps et en les empoisonnant en réalité, mais changer complètement leur rapport à eux-mêmes et à l'espace. Mais aussi, je trouvais un intérêt dans cette danse hyper frénétique et comme si c'était un mouvement qui nous échappait à nous-mêmes. Et je pense que quand je parlais de territoire champ au départ, en m'appuyant sur les oiseaux, puis sur ce plateau, cette vallée dans le plateau du Golan, c'est pour différencier l'idée d'un champ qui serait dissocié de l'espace dans lequel il émerge, ou d'une danse qui serait aussi dissociée. En réalité, ce serait plus de voir le chant comme une action qui permettrait de recréer des rapports entre les milieux, les formes de vivant et soi, mais qui aurait aussi un potentiel politique.
Si fermé à notre langage, tu n'entends pas nos raisons, à défaut de la voix, parle-nous en gestes barbares. Échille dans l'Agamemnon. Le mot geste a deux définitions. La première, mouvement du corps, principalement des mains, des bras, de la tête, qui serait porteur ou non de signification. La deuxième, une action remarquable qui frappe par sa générosité ou sa noblesse. Par exemple, on dirait de quelqu'un, en agissant ainsi, elle a fait un beau geste. Cependant, je ne suis pas forcément d'accord, porteur ou non de signification. Je ne sais pas. Pour moi, chaque geste exprime quelque chose, un sentiment, une émotion, une intention. Parfois, ils nous trahissent, parfois, ils nous aident à avoir plus d'impact. Je ne peux pas croire qu'il n'ait pas de signification. Ce qui tient debout, c'est ce qui ne tombe pas. La verticalité face à l'horizontalité. Concernant le mouvement du corps, le mouvement de l'être humain, debout, ça s'oppose à être assis, couché, accroupi ou à quatre pattes. C'est-à-dire à toute posture dont les appuis sont multiples, puisque être debout, c'est seulement se trouver en appui sur nos pieds. Mais que fait-on debout ? A priori, rien, on ne bouge pas. Mais est-on aussi immobile qu'il y paraît ? Se tenir debout, c'est être prêt à bouger. C'est en quelque sorte déjà bouger intérieurement.
De la préfecture de la Haute-Loire. Certains ont même essayé de s'introduire dans le bâtiment. Des pneus ont été déversés dans la cour et des projectiles envoyés. Pour repousser les manifestants les plus virulents, les gendarmes ont dû faire usage de leur matraque et de gaz lacrymogène.
Au sens figuré, les très nombreuses expressions utilisées en tomber sont connotées négativement. Tomber à l'eau, tomber bien bas, laisser tomber quelqu'un, tomber en disgrâce, tomber dans l'excès ou dans l'oubli, tomber dans un piège ou une embuscade, tomber dans les pommes, tomber de fatigue, tomber malade, tomber raide. On y trouve l'idée d'échec, celle de perdre le pouvoir ou d'être renversé, ou encore le sens de périr. La chute, au sens moral, c'est la faute, la déchéance, et au sens théologique, le péché originel. L'usage du terme connaît cependant quelques rares connotations positives. Ainsi de tomber à pic, tomber d'accord, bien tomber, tomber juste, tomber amoureux, ou encore tomber enceinte, soulignant le caractère inattendu, soudain, ou incontrôlé de l'action. On sait combien la posture érigée, le privilège accordé au mouvement d'aller vers le haut, sont porteurs d'une valeur et d'une connotation positive. Dans chaque culture, le haut et le bas, l'ascension et la chute, sont non seulement des dimensions spatiales, mais surtout symboliques. Et on sait encore à quel point la culture occidentale est marquée par l'histoire du corps redressé, selon l'expression de Georges Vigarello. Dans le ballet académique au 19e, voué justement à l'élévation des corps, les chutes demeurent rares. Tomber constitue un accident, une maladresse à éviter, ainsi que le rappelle ce manuel de danse. Si le public fait preuve de quelques indulgences à l'égard de certaines fautes techniques, il ne pardonne pas la chute, à moins qu'une chute ne soit transformée en figure chorégraphique.
Elle est exsangue, les signes de violence sont encore visibles dans le cœur de Paris. Les esprits des riverains et commerçants choqués, 136 000 manifestants ont défilé, se sont réunis dans toute la France ce samedi. À titre de comparaison, ils étaient 282 000 le 17 novembre. À l'arrivée, 412 interpellations, un bilan qui a été affiné par le préfet de police de Paris. Procédures de comparution immédiates qui vont être accélérées. Et puis au cours d'une réunion de crise à la mi-journée, Emmanuel Macron a fait un...
Frapper provient de l'onomatopée frappe, qui signifie marquer un choc violent et rapide. Définir cette action, qui consiste à donner un ou plusieurs coups à une personne ou à une chose, nous conduit à distinguer trois questions. De quelle manière frappe-t-on? Qui frappe? Que frappe-t-on? Nous porterons notre attention sur le pied plutôt que sur la main, car le mouvement de frappe des pieds a donné naissance à de véritables techniques caractérise et identifie certains styles de danse. Ce mouvement paraît immédiat, mais frapper avec le pied demande des coordinations complexes. La définition de l'endroit où l'on frappe permet d'expliciter un autre élément fondamental dans l'action de frapper, le toucher et le contact induit par ce mouvement de choc violent. La qualité de l'action de frapper change radicalement en fonction des objets frappés, induisant des répercussions directes sur l'ensemble du corps ou du mouvement exécuté. Le verbe frapper se caractérise donc au niveau dynamique par l'application d'une force dans l'action, une projection dans l'espace unidirectionnelle à visée précise et une exécution rapide et soudaine. Ces trois facteurs peuvent revêtir des intensités différentes et donner vie à une diversification dynamique de l'action. L'avant décline ainsi des actions complémentaires au verbe frapper, cogner, pousser, enfoncer, qui gardent la même organisation des efforts, tout en changeant l'accent porté sur l'un des facteurs dynamiques. Soulignons enfin qu'il associe à chacune des 8 actions élémentaires des sensations motrices spécifiques, l'action de frapper renvoie pour lui à une sensation motrice de chute, à l'acte de tomber.
Vous venez d'écouter Radioactivity, une émission réalisée par les étudiants et étudiantes de 4e année de l'Institut supérieur des beaux-arts de Besançon, sur une proposition de Daniele Balit, Thomas Bizzari et Isabelle Massu. Les podcasts resteront accessibles sur le site internet de l'ISBA www.isba-besançon.fr. Merci pour votre écoute.